L'autre chose, c'est d'essayer de dire quelles sont les spécificités de ce lieu, c'est-à-dire on est une collection privée. Une des choses qui m'a semblé très importante, c'est de dire que au cœur de une collection privée de collectionneurs, c'est pas simplement un coffre-fort avec des très belles choses dedans. Au cœur de la collection, ce ne sont pas simplement les œuvres, c'est quelque chose qui s'organise autour des artistes eux-mêmes, avec un principe qui est celui d'inviter systématiquement les artistes, d'associer les artistes à toutes les étapes du projet. Vous avez là l'exemple de la salle Paul McCarthy de la Pointe de la Douane, dans lequel le choix des œuvres a été fait avec Paul McCarthy. On l'a invité à concevoir l'accrochage, donc c'est lui qui a fait l'accrochage, et on lui a proposé aussi, de rajouter des œuvres qui ne font pas partie de la collection Pinault, certaines d'entre elles qui lui appartiennent à lui, ou d'autres qu'il a demandé à certains de ses collectionneurs de venir prêter. Donc le projet de l'exposition est vraiment fait avec les artistes. De la même manière, Ronnie Horne, qui est venue concevoir elle-même l'accrochage de cette pièce qu'elle avait montrée à Bregenz, qui est une pièce que j'aime beaucoup, comme des sortes de puits d'eau pétrifiés qui sont en fait des blocs de verre à la Pointe de la Douane. Donc mettre l'artiste au cœur du projet, c'est l'inviter à participer au choix des œuvres, l'inviter à faire lui-même l'accrochage, et puis c'est ensuite l'inviter. Alors c'est le principe de nos catalogues. Systématiquement, chaque fois qu'on montre un artiste de la collection dans une des expositions de la collection, de produire ou de proposer à l'artiste de produire un nouvel entretien, avec un critique d'art ou un commissaire d'exposition de son choix. L'idée étant de faire corpus, donc dès la première année, on a 40 entretiens inédits qui vont de Bruce Naumann à Tatiana Trouvé, etc. Vraiment l'idée de recueillir la parole de ces artistes. L'idée étant aussi que comme de deux ans en deux ans, ils peuvent se retrouver, si deux ans plus tard, le même artiste revient, on lui propose à nouveau un nouvel entretien, ce qui permet de documenter sur le long terme cette parole des artistes. On les invite également à venir, Tatiana Trouvé en train d'installer sa pièce, à venir participer à des cycles de rencontres tous les mois à Palazzo Grassi. Hier, on avait Giuseppe Pennone qui est venu, et c'était un moment absolument merveilleux à la Pointe de la Douane, parler de son œuvre. Donc voilà. Et dernière chose, donc les artistes viennent participent à l'accrochage, participent à choix des œuvres, sont invités à parler dans le cadre des catalogues, sont invités à s'exprimer et à rencontrer le public. Et puis, donc, à Palazzo Grassi, tous les ans, on en invite un à venir s'emparer du lieu. Et là, en l'occurrence, c'est Urs Fischer qui donc est venu mettre le désordre, le flux de la création, le chaos de la création au sein des espaces classiques du Palazzo Grassi et au sein un petit peu d'un musée. C'est quelque chose qui essaye d'ordonner l'histoire ou en tout cas d'écrire une forme d'histoire. Lui vient vraiment au cœur de tout ça, mettre le désordre, et je terminerai sur quelques images de son exposition. Celle-ci qui est l'une des plus spectaculaires, qui montre à quel point aussi nous on a vraiment vocation à s'ouvrir, à rendre possible le plus de choses possibles pour l'artiste. Là, avec cet ensemble, Urs Fischer est intervenu sur l'architecture même du palazzo, puisqu'il a ouvert des murs, restituant des transparences dans l'espace qui n'existait pas avant. On lui permet de s'exprimer un petit peu à 360 degrés avec une œuvre, là en l'occurrence une œuvre qu'il avait faite avec Georg Herold, qu'il vient revisiter et qu'il transforme aussi en une sorte de performance permanente en invitant pendant toute la durée de l'exposition en faisant que l'un des éléments de l'œuvre, c'est la présence permanente d'un modèle nu qui vient dialoguer avec les œuvres dans l'espace d'exposition. C'est aussi l'invitation de l'artiste à faire des publications spéciales, à faire un cycle de films. Voilà. Je crois que si on a une chose vraiment à énoncer, s'il y a une sorte d'identité à laquelle c'est une chose à laquelle on veut vraiment s'identifier, c'est cette idée que le rapport entre un collectionneur et l'art n'est pas simplement de l'ordre de la possession, qu'il n'est pas un rapport uniquement vers l'objet, mais qu'il est de l'ordre de la complicité, qu'il est de l'ordre du rapport avec la personne de l'artiste, qu'il n'est pas de l'ordre de l'objet, qu'il est de l'ordre du projet. Voilà, c'est, je crois, la chose la plus importante, en tout cas, qu'on essaye de mettre en place ici à Palazzo Grassi. La prochaine exposition, elle sera une exposition à nouveau de la collection, autour de la collection vidéo par un choix d'œuvres de la collection vidéo de François Pinault, de Bruce Naumann à Bill Viola, en passant par Javier Téllez, Henri Sala ou autres, et avant, en 2013, de rouvrir pour la Biennale de Venise avec à nouveau une invitation faite à un artiste. J'ai été terriblement bavard. Je ne m'étais pas rendu compte que le chemin pour arriver jusqu'à Venise était aussi long. Je pense que le côté discours a sûrement été beaucoup trop long. Je crois qu'on avait très envie avec Nathalie aussi de pouvoir passer plus à un stade de dialogue ou de conversation.
Merci Martin. Non, au contraire, c'est après un exposé aussi complet qu'on peut s'être nourri et pouvoir imaginer des questions. Et avant même... alors Jacques, moi je ne vais pas me lancer personnellement. Je demande à Jacques Hatton. Je demande aussi... Je vais passer mon micro à
Moi, j'aurais simplement une question. On va partir, je pense, sur le plan chronologique. J'ai été frappé parce que finalement, votre carrière, enfin pour l'instant, est encore brève vu votre âge qui n'est pas canonique, s'est faite essentiellement en France pendant la grande majorité du temps, et ça n'est que depuis 2 ans, finalement, que vous êtes plus ouvert vers l'international, en sachant que, bien évidemment, la FIAC vous obligeait à aller à beaucoup voyager et à vous ouvrir sur des galeries étrangères, etc. Mais finalement, une action internationale qu'au bout de 2 ans, et votre action, vous qui semblez avoir beaucoup bougé, navigué, qui avez un besoin de changement, du moins, en tout cas, c'est ce que je ressens un peu, vous êtes resté en France pendant très, très longtemps. Et comment vous expliquez ça ? Est-ce que c'est la conjonction ? Est-ce que ce sont les faits ? Est-ce que c'est votre vie personnelle ? Enfin, j'en sais rien, je ne sais pas, qui vous obligeait à rester dans notre hexagone ?
Alors, c'est une question que je m'étais en fait jamais vraiment posée, à laquelle je répondrais en allant au-delà de mon cas personnel, parce que sincèrement, pour ce qui me concerne, je ne saurais l'expliquer autrement que ça ne s'est pas présenté. Et en même temps, si ça ne s'est pas présenté, enfin, le fait que ça ne soit pas présenté est déjà était déjà intéressant en tant que tel. On est très peu, et moi mon cas est particulier puisque je suis certes à l'étranger, mais dans une fondation qui est d'origine et de naissance française, hein, d'ailleurs pour laquelle je combats chaque jour à Venise contre l'idée qu'on est une fondation française, puisque on est de droit italien, on est une équipe italienne. À part moi, mais on a toujours cette image. Et en fait, on est très peu de Français à diriger ou à travailler dans des institutions internationales.
C'est ce que j'allais dire, oui.
Bon, on en parle toujours des mêmes. Hein. On parle toujours de Philippe Vergne qui est à New York. On parle toujours de Christian Berger. Enfin, on n'est pas très nombreux. Hein.
En fait, Philippe Vergne, qui effectivement a été commissaire curateur au Walker Art Center à Minneapolis, et maintenant qui dirige la DIA Fondation à New York, professeur Bernard Le Mamco à Genève, et puis notre prochain invité, Jean-Hubert Martin, qui lui est quand même, pour le coup, notre contre-exemple, parce qu'il a dirigé la Kunsthalle de Berne, qu'il a dirigé le musée de Düsseldorf. Mais c'est finalement encore aujourd'hui, et peut-être que c'est en fait, on va dire qu'on est pas copie conforme, mais dans le sens où on se retrouve issu de ce territoire et allant assez rarement à l'extérieur sur le plan de nos carrières. Ça veut dire sur des interventions plus ponctuelles dans le cadre d'un événement, d'une commissariat de biennale, c'est un fait. Mais qu'effectivement, si l'idée aujourd'hui dans cette rencontre, c'est aussi de savoir comment ces parcours s'opèrent, comment se construisent ces développements professionnels. Aujourd'hui, on peut effectivement s'interroger nous-mêmes en se disant, finalement, on est encore dans une question qui est liée à notre provenance, et on arrive à se poser d'autres questions. Encore, moi, je me retrouve avec Victoria Norton récemment dans le cadre de la Biennale donc de Lyon, avec beaucoup de rencontres grâce justement à cette invitation faite par Thierry Raspail avec des acteurs de l'art contemporain d'Amérique. Du Sud, et qui me disent « Mais vous êtes trop européen. » Alors, effectivement, on a le sentiment à la fois d'être dans une curiosité démultipliée qu'on n'a jamais connue autant depuis, on va dire, les années 2000, et qu'une certaine manière, Jean-Hubert Martin, en 1989, Les Magiciens de la Terre, présentait, Sauf qu'aujourd'hui, dans les faits, ça reste encore relié à des territoires.
Et alors, j'aimerais prendre un exemple qui est un peu inverse, qui est celui de la scène italienne. Il se trouve que depuis que je suis à Venise, mais auparavant déjà, à l'époque où je m'occupais de la FIAC, j'avais remarqué à quel point les Italiens sont, par exemple, dans des postes clés, soit dirigent ou sont propriétaires de galeries importantes à l'extérieur de leurs frontières. Quand on va à New York, quand on va à Londres, très souvent, on se rend compte qu'au poste clé des grandes galeries internationales, il y a toujours un Italien ou très souvent un Italien. Et à Paris, dans les galeries, les jeunes galeries très prescriptrices, c'est pas un hasard si un Daniele Balicce est italien. À Berlin, une Isabella Bortolozzi, enfin des gens très importants. Dans le cadre des musées, on regarde même en France, on voit comment un certain nombre d'interlocuteurs. Et les Italiens sont... Et je m'interrogeais là-dessus, sur le fait que les commissaires italiens voyagent beaucoup, sur le fait que... Et c'est en arrivant en Italie qu'en parlant avec des jeunes étudiants, notamment étudiants de futurs curateurs ou futurs directeurs de musée, eux me disaient, mais tout simplement, Martin, c'est parce que nous n'imaginons pas notre avenir professionnel en Italie parce qu'il n'existe pas. Et donc, par exemple, toute la jeune génération d'artistes ou de commissaires d'exposition italiens se construit comme une diaspora. Alors, c'est à la fois terrible pour ce pays et c'est en même temps une grande force parce que elle est aussi la clé du rayonnement international très fort. Alors, c'est une chose vraiment à double tranchant. On a en France effectivement la grande chance de pouvoir embrasser une carrière professionnelle dans ce domaine de la culture parce qu'au-delà de l'art contemporain, c'est vrai aussi beaucoup dans le domaine du théâtre, dans le domaine de la danse, etc. C'est formidable, mais peut-être que d'une certaine manière, c'est ce qui aussi nous emprisonne, mais nous empêche d'avoir cette sorte d'extraordinaire rayonnement international que peuvent avoir les Italiens.
Enfin, cela dit, on peut s'imaginer que dans des périodes un petit peu plus restrictives, on aura des modes de fonctionnement à réinventer, etc. Pour autant, moi, je note quand même non pas un empêchement, mais une difficulté qui reste vraie du point de vue tout simplement du langage. Quand il s'agit d'être directeur d'une structure, je parle une fois de plus pas d'être en termes de marché où l'anglais est une langue qui est devenue langue internationale, mais quand on se retrouve directeur d'un musée, je prends un des cas les plus spécifiques, mais quand même qui parle, à Gand, par exemple, qu'on succède à Janout à Gand, qu'on s'appelle Peter Derenchenko, qu'on apprend le flamand, et que finalement, au bout de 2 ans, ça ne va pas, on peut s'interroger sur ce genre d'exemple.
Parce que l'italien est plus facile à apprendre.
Alors, le flamand, ça... Bon, voilà. Mais, ce qui veut dire qu'à un moment donné, après, c'est la définition des rôles. Je suppose que celui qui est au premier plan dans les échanges et négociations, relations à caractère politique et financier, s'il n'est pas dans la langue mère aujourd'hui encore, ça reste compliqué. C'est vrai. On peut parler plus de curator en déplacement que de directeur.
Oui, c'est vrai, c'est très difficile. Bon, moi, l'italien, Dieu merci, est assez proche du français. Bon, je le comprends assez bien, je le comprenais assez bien. Et puis, il faut le parler. Et le parler, même, bon, maintenant, ça se passe très bien, mais il y a quand même toujours un décalage entre... il est évident que je le comprends beaucoup mieux que je ne le parle. Et donc, je suis toujours dans cette espèce de frustration. J'en parlais avec Nathalie tout à l'heure, d'avoir l'impression de le comprendre comme un adulte, mais de le parler comme un pré-ado pas très cultivé. Et donc, d'être dans un décalage, d'être capable de saisir un certain nombre de nuances avec lesquelles je ne suis pas capable de m'exprimer. Enfin, avec le même degré. Et c'est une chose... Bon, on trouve des parades. Hein, on trouve des parades, Dieu merci. Mais c'est un vrai effort. C'est un vrai effort.
Parce que moi, ce que je voudrais relever, quand même, c'est quand avec les amis, nous avons fait le choix de te convier parce que ça nous importait beaucoup d'avoir certes ta personnalité, tes choix, tes engagements et aussi ce parcours que tu as évoqué, moi je disais hybride, tu parlais justement des relations publiques et privées. À un moment donné, ce métier qui a été tu es amené à être dans une structure en tant que directeur avec une vision structurelle et stratégique et à la fois d'une manière ou d'une autre, quand même, dans un commissariat d'exposition, je ne sais pas si, avec Caroline Bourgeois, comment les choses s'opèrent, mais enfin, dans un rapport artistique au quotidien avec ces artistes. Et tu nous donnes puisque l'idée, c'est aussi de vous transmettre, par le biais de ces rencontres, comment aussi l'art contemporain fonctionne, parce qu'il y a ces rencontres qu'on a avec les artistes de façon régulière dans le cadre des visites privées que les amis organisent. Et ça, je crois qu'on entend leur démarche, mais là, l'idée aussi, c'est d'entendre les démarches soit d'un marchand, soit d'une galerie, soit d'un collectionneur. Et là, avec toi, on a tous les aspects possibles et qui font que ça ne nous rend pas la tâche facile, puisqu'il n'y a pas une doxa sur la manière de fonctionner. Alors, comment tu...
Alors moi, enfin, c'est précisément ce qui m'intéresse. Hein. C'est de pouvoir... ajuster mon rôle aux différents contextes dans lesquels il va s'opérer. Et je prendrai l'exemple là de la Palazzo Grassi. Je me suis dit que pour arriver à faire mon boulot correctement, qui est celui de coordonner la programmation, de la coordonner aussi dans ce rapport avec François Pinault, qui est lui à la fois très présent, mais qui a besoin vraiment que j'ai une sorte de rôle de presque de maïeutique, c'est-à-dire que je l'aide à formuler, que je l'aide à Je ne dois pas programmer à sa place, je dois, dans un dialogue avec lui, arriver à savoir ce dont il a envie, quelles sont ses intuitions, de l'aider à les formuler, à trouver les bonnes personnes pour ensuite concevoir les projets. Et je me suis dit que pour le faire bien, il fallait que je me dise que je n'allais pas être commissaire des expositions. Parce que tout le monde, enfin beaucoup de gens qui arrivent à Palazzo Grassi, enfin, à s'occuper de la collection Pinault, aussitôt ont envie de jouer avec ce grand circuit de voiture, enfin ce grand, je sais pas quoi comment dire, ce grand Lego dans lequel on peut trouver tellement de choses et puis se faire son musée imaginaire. Donc, je me suis dit qu'il fallait surtout pas que je fasse ça, mais que je me concentre sur l'idée d'orchestrer, de travailler en complicité avec les commissaires invités, de travailler aussi à développer, c'est-à-dire que je pense que c'est un musée qui a une très forte personnalité artistique parce que liée à la collection et liée au fondateur, mais dont le manque principal était celui de personnalité culturelle, c'est-à-dire comment on passe d'un programme, d'un projet artistique à un vrai projet culturel d'éducation, d'édition, de documentation, de etc., etc. Voilà, comment on articule tout ça. Donc en l'occurrence, c'est le rôle que je crois juste à ce moment-là, enfin en tout cas peut-être pas pour toujours d'ailleurs, mais au moins dans cette période-là, qui me semblait le plus juste. Dans le cadre de Nuit Blanche, c'est tout à fait le contraire. C'est vraiment un projet de choix artistique dans lequel, d'ailleurs c'était même assez agréable, dans lequel j'étais dans un tout autre rôle, et le rôle ensuite de la production, du réalisme, était confié à quelqu'un d'autre qui n'était pas moi. Donc il fallait à la fois ce qui m'intéresse, c'est d'être capable d'avoir des rôles différents et de ne pas me dire, parce que ce n'est pas le cas, commissaire d'exposition je suis et je resterai avec... Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment à chaque fois d'adapter et d'essayer de voir comment je peux être le plus utile et le plus juste, et comment aussi je peux faire bénéficier une situation nouvelle de quand même ce que j'apporte avec moi dans mes bagages des expériences précédentes. Je pense que la FIAC, donc un univers privé, hein, puisqu'on ne le dit pas forcément, mais la FIAC, on a l'impression que c'est une institution tellement c'est un événement qui se tient sans un centime de subvention publique. Hein, c'est un événement qui n'est financé et ne fonctionne que parce qu'avec l'argent que payent les galeries, qu'avec les billets que prennent les visiteurs et qu'avec le sponsoring qu'on est en mesure de rassembler. Hein, tout ça pour 8-10 millions d'euros à faire. C'est un gros événement, mais absolument privé. Et je pense que arriver dans cet événement privé avec un passé récent, un passé immédiat, qui était celui de l'institution publique, m'a permis aussi de proposer à ce moment-là un regard différent, m'a permis d'avoir une crédibilité à l'égard de toute la scène institutionnelle, m'a permis, je pense, mieux que si j'avais été grand spécialiste d'organisation de salons, de négocier avec le Grand Palais et avec le Louvre pour obtenir les lieux dans de bonnes conditions, m'a permis d'être plus crédible qu'un bon vendeur lorsqu'il s'agissait de convaincre Beaubourg et autres d'inaugurer leurs grandes expositions à ce moment précis, et puis toutes sortes d'autres choses. Dans le cadre de la FIAC, moi je me souviens d'avoir eu comme ça l'intuition que si un événement qui est un événement commercial ne se donnait comme objectif que d'être un événement commercial, eh bien, il allait manquer son coup. Que pour réussir en tant qu'événement commercial, il fallait se donner l'ambition beaucoup plus grande d'être à la fois un événement commercial, mais aussi un événement culturel, mais aussi un événement d'échange d'informations, mais aussi un événement qui rentre dans la société même, si je peux dire de manière un peu prétentieuse, mais qui est celui où l'art contemporain prend une visibilité autre. Le moment de la FIAC, c'est celui où l'art contemporain quitte la page 250 des magazines pour avoir la chance d'être montré un petit peu en première page. Voilà. Et qu'il fallait attraper toutes ces dimensions à la fois. Donc effectivement, c'est peut-être un peu mouvant, c'est peut-être un peu glissant, ou un peu, mais je répugne absolument à l'idée d'être mis dans une boîte et de devoir jouer toute ma vie le même rôle dans la même pièce.
Ça, on l'avait vu. Hein. On l'a vu très rapidement, puis j'ai l'impression que vous mettre dans une boîte, ça doit être compliqué. Jean-Pierre, je vois que tu as...
Non, je n'ai pas de questions, mais je pense que dans la salle, il y a des questions.
Votre parcours nous montre que vous avez superbement su gérer le transfert de pollen d'institution à l'autre, comme privé et public. Et est-ce que vous pensez qu'à Lyon, il y a suffisamment de transfert de pollen?
Alors, ce serait très imprudent, ce serait très prétentieux et ce serait très impoli aussi de prétendre arriver avec des jugements apportés. Je voudrais donc évidemment, en bon politique, que je ne suis pas, mais enfin, quitte à prendre, je peux aussi en emprunter le langage, plutôt que de répondre directement à votre question, ce que je ne vais pas faire parce que je ne connais pas assez bien la manière dont les choses se passent. Je voudrais simplement dire que j'ai le sentiment aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure avec Nathalie Herginot, qu'il y a quand même une réalité vraiment intéressante. Bon, en venant avant de venir ici, j'ai fait un petit tour, alors non pas au Musée d'Art Contemporain, non pas que je suis allé visiter 3 expositions. L'une à la BF15, donc j'ai eu l'occasion de dire à Perrine Lacroix que j'avais trouvé vraiment l'exposition qui est montrée actuellement formidable, et que aussi bien la qualité de l'exposition, la qualité de l'accueil que j'ai reçu là avec une personne qui vraiment explique, parle, raconte, enfin, était formidable. Ensuite, je suis monté rue Burdeau et je suis allé voir l'exposition de la salle de bain faite par Francis Baudevin, qui est remarquable, dont j'espère une chose, c'est qu'un musée va la reprendre, parce que c'est une exposition qui doit voyager, qui est cette exposition sur le musée, la vision par les enfants, d'invitation à une vingtaine d'artistes de faire des œuvres de petit format, accrochées. Enfin, c'est une chose que je pense, j'espère que des musées ailleurs en France ou en Italie ou dans le monde vont être suffisamment malins pour se dire qu'il faut absolument reprendre cette exposition et la faire voyager. Et puis un lieu que je connaissais pas, c'est la première fois que je le voyais aussi, dont j'oublie non, qui est 360 mètres cubes, ou je sais plus, qui est un lieu un peu associatif, si j'ai bien compris, ou en tout cas fondé à l'initiative de l'artiste. Voilà, et dans lequel j'ai vu vraiment des choses bien, et puis d'autres choses bien sûr, mais je dirais que dans ce lieu qui est dans justement cet entre-deux qui est vraiment intéressant, qui est ni celui de la grande institution très codée, très le musée avec ses conservateurs, etc., ni le monde privé qui est celui des galeries, mais un petit peu à l'entre-deux, qui est celui à la fois de l'initiative de vrais gens qui ensuite, bien sûr, vont solliciter des soutiens publics, etc. Mais j'ai l'impression que cette zone-là, hein, qui est aux frontières de l'initiative privée, l'initiative personnelle, et du service public, d'une certaine manière, de la culture, est présent à Lyon. Et moi, je trouve que ça donne beaucoup de... c'est très, très positif, hein, et c'est très optimiste. Ça laisse à penser que vraiment ce genre de rencontres et de synergies sont possibles.
Je vais vous poser une question. Ça m'étonnait que tu ne parles pas.
Un micro est-il vraiment nécessaire?
Bonsoir. Simplement une chose par rapport à M. Pinault. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient la fascination de Jeff Koons. Est-ce que vous la partagez aussi ?
Là encore, je vais me faire une spécialité de répondre à côté des questions. Je vais dire que ce n'est pas l'artiste qui m'intéresse le plus dans la collection de François Pinault. En même temps, par rapport à Jeff Koons, je trouve que Jeff Koons est à l'heure actuelle victime. Bah oui, victime. On peut être le killer et en même temps être une victime de deux mauvais jugements. Je trouve que cette sorte de folie d'association de Jeff Koons avec, bien entendu, l'argent et ce qu'il y a de plus fou amène des gens à s'intéresser à Jeff Koons pour de mauvaises raisons et amène également à se désintéresser de Jeff Koons pour de mauvaises raisons. Je pense que ce n'est pas parce que le Hanging Heart s'est vendu à je ne sais plus combien, 18 millions de dollars, que c'est une œuvre intéressante. Mais je pense aussi que ce n'est pas parce que le Hanging Heart s'est vendu à 18 millions de dollars qu'il n'est pas une œuvre intéressante. Et Jeff Koons n'est pas mon artiste préféré. Je pense que c'est un artiste extrêmement intéressant. En tout cas, plus, ce n'est pas simplement l'artiste star des collectionneurs stars. Hélas, il est dans cette situation où les projecteurs qui sont braqués sur lui rendent à peu près impossible toute vision, je dirais, lucide et toute mise à distance de son œuvre. Alors ensuite, pourquoi François Pinault l'aime beaucoup je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense qu'il... c'est quelqu'un qui le suit depuis... il fait partie des artistes dont il y a peut-être, je ne sais pas, 20... une vingtaine de numéros, une vingtaine de pièces dans la collection, donc c'est vraiment important. Et depuis des œuvres du début jusqu'à des œuvres toutes récentes, je vois comment Koons a pu l'intéresser dans cet effort pour sortir du minimalisme et aller toucher à des choses qui en sont l'exact opposé. Et je pense que quand on pense à la collection Pinault et à la fascination qu'il a pour Jeff Koons, il faut toujours se rappeler que c'est une des facettes d'une collection qui est par essence multifacette. Quand il y a eu la première exposition Where Are We Going, dans laquelle il y avait les Koons notamment, tout ça, à la fin de l'exposition, beaucoup de gens disaient « Ah oui, tu as vu les Koons, tu as vu les Damien Hirst, etc. » Et il se trouve que moi, ce que j'avais vu de plus beau, c'était les Agnès Martin et les Robert Hyman. Mais la force, l'impact visuel de Jeff Koons et de Damien Hirst était tellement fort que beaucoup de visiteurs avaient simplement gommé le fait que la collection réservait exactement quasiment le même nombre de mètres carrés à la délicatesse d'Agnès Martin ou au coup de poing dans la gueule de Damien Hirst. Donc pourquoi Pinault aime Jeff Koons, je ne sais pas, mais ce que je crois très important, c'est de dire qu'il n'aime pas que Jeff Koons, qu'il aime un ensemble contradictoire dans lequel Jeff Koons a autant de poids que Carl André ou d'autres artistes qui sont son exact opposé.
Alors pour rester sur des artistes de la Fondation Pinault, non mais on va rester sur un autre artiste de la Fondation Pinault. Et moi j'ai une question qui... vous allez peut-être me donner votre éclairage, c'est Paul McCarthy. Alors, personnellement j'adore Paul McCarthy, je pense que Gilles n'aime pas beaucoup Jeff Koons, vu sa question.
Pas du tout. C'était pas la question. Je me demandais pourquoi est-ce qu'on avait le droit de ne pas aimer Jeff Koons. Et je pensais que Martin allait nous expliquer pourquoi on peut ne pas aimer Jeff Koons.
Non, on va lui demander de répondre sur McCarthy, puis après il nous fera sa réponse sur Jeff Koons s'il a envie. Sur McCarthy, alors, bon, McCarthy, toujours très intéressant de voir les McCarthy à la fois à la Douane de Mer. Moi, je me souviens de la très belle exposition McCarthy à la Villa Arson, qui était absolument fantastique. Pourquoi est-ce que Paul McCarthy n'a pas de grande exposition en France ? Pourquoi on voyait très peu d'œuvres de McCarthy à la FIAC, alors qu'on a vu de très beaux McCarthy à la Biennale à Lyon ? Comment est-ce que vous expliquez ça ? Et puis, est-ce que vous aimez bien McCarthy ?
Alors moi, j'aime beaucoup Paul McCarthy, et je rêverais d'arriver à montrer une œuvre qui est dans la collection de François Pinault. et qui n'a été montré en France qu'une seule fois, qui a été montré à la Biennale de Lyon, qui était l'œuvre de McCarthy et Mike Kelly, le grand camp Sod and Sod is Sock, qui est dans la collection Pinault, et que depuis il n'a montré qu'une seule fois, il l'a montré à Moscou, mais il faut 2500 m² d'un seul tenant, ce qui est une chose qui est assez difficile à trouver, et je cherche à Venise des endroits pour le montrer. Je pense que je ne trouverai pas, mais j'aimerais beaucoup le faire. Alors, McCarthy, est-ce qu'il a, alors, il a été montré à la FIAC assez souvent, puisque certaines des galeries, comme Hauser & Wirth, qui le montrent, en ont toujours montré, mais pas beaucoup. C'est vrai qu'il n'a pas eu, dans mon souvenir, de très grand, mais en même temps... Ouais. En même temps, il est pas. Enfin, c'est vrai que lui, mais ça me fait penser que Mike Kelly, par exemple, de la même. Oui. Et par contre, maintenant, c'est trop. Enfin, oui, n'a pas eu non plus. Non, je suis un peu idiot. Je ne sais pas dire pourquoi. Je trouve que c'est très dommage, mais je ne saurais pas. Je saurais pas dire pourquoi. Le magasin n'a pas. Non.
Si. Enfin, non, une grande expo, une perso, non, c'est Michaelet. Ah oui. La grande expo personnelle en France de Michaelet, c'est au magasin. Et c'est vrai que celle de la Villars soit importante, on a cité Lyon. Non, mais au bout du compte, là, il y aurait quelque chose à explorer sur la situation de la côte ouest, qui sur le plan artistique, de la côte ouest, c'est aux États-Unis, bien sûr, qui sur le plan artistique est tout à fait, me paraît tout à fait évident, sur le plan du marché, pas. Tout à fait au même niveau que sur le plan de l'engagement artistique des grands collectionneurs et des grands musées. Donc c'est curieux, c'est à noter, c'est à relever.
Sinon, je voulais répondre à Gilles. Bien sûr, on a le droit de ne pas aimer Jeff Koons. Je pense qu'on a le droit de ne pas aimer aussi Donald Judd, qu'on a le droit de ne pas aimer Mauricio Cattelan, qu'on a le droit de ne pas aimer Paul McCarthy. Qu'on a le droit de ne pas aimer Ron Yorn, qu'on a le droit de ne pas aimer Paul Keux, etc. etc. Et puis, on a le droit d'aimer tout cela ensemble, même si, a priori, c'est rationnellement impossible, même si on pourrait penser que leur parti pris sont tellement opposés que... voilà, on pourrait penser que c'est interdit d'aimer à la fois... un excès et son opposé. Ben non, je trouve que la chose formidable, c'est que c'est pas interdit de les aimer tous les deux. Et voilà.
Moi, je vais revenir à une question un peu personnelle, sauf s'il y a d'autres questions dans la salle.
Oui.
Au début, vous êtes intéressé à la peinture historique. Et quel est votre regard aujourd'hui? Vous êtes à Venise. Bon, à Venise, il n'y a pas que de l'art contemporain. Il y a aussi des tas de musées. Est-ce que vous allez voir, revoir de la peinture classique, historique?
Oui, bien sûr. Oui, évidemment. Et là c'est pareil. Je ne sais pas répondre autrement que de manière très 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 banale sur le fait que l'idée de constituer l'art contemporain comme quelque chose de complètement autonome qui n'envisagerait pas de réalité en dehors de son champ propre, c'est quelque chose d'horrible. Et la belle chose de Venise, c'est que Venise propose sans arrêt cet aller-retour et parfois cette espèce de court-circuit qui fait qu'on passe de la Scuola San Giorgio avec les Carpaccio à Paul Keux, à Tiepolo, moi j'ai beaucoup de plaisir. Enfin, j'ai mes, un peu mes lieux fétiches, les Carpaccio de San Giorgio en est un, mais les Tiepolo de Carmini ou du deuxième étage de la Carrezzo Nico, le Bellini de San Zaccaria ou celui des Frari, voilà, sont à chaque fois des moments formidables. Mais là aussi, l'idée que aimer une catégorie d'art, c'est se couper la main pour renoncer à tout le reste, c'est une chose effrayante.
Gilles.
Moi, je ne suis pas tellement d'accord avec Martin. Il faut prendre des positions plus dures et plus sévères. On a le droit d'être sévère avec l'art. Je trouve que tu n'es pas assez sévère et de dire qu'on a le droit d'aimer tout, à mon avis, peut-être que dans la position où tu es, c'est plus facile. Mais je pense que, par exemple, par rapport à Koons, je pense qu'au départ, c'était très intéressant et qu'à la suite, rentrant dans un concept invraisemblable de théâtralité, il est rentré dans un gigantisme en fait qui n'appartient qu'à ceux qui ont les moyens de l'acheter. Et de ce côté-là, je pense qu'il s'est décrédibilisé par rapport à son travail du départ qui était magnifique avec les aspirateurs. Et la Cicciolina. Cicciolina, j'ai beaucoup aimé.
C'est l'apogée. Hein, la Cicciolina, c'est l'apogée.
C'est l'apogée. Autre, mais je passe à ça. Je passe à autre chose. Est-ce que dans la collection Pinault, est-ce qu'il y a des Simon en taille et des Kelly Walker?
Alors, en taille, je ne suis pas sûr. En taille, je ne suis pas sûr. Kelly Walker, je pense que oui.
Et est-ce que tu sais pourquoi un jour, François Pinault, qui voulait acheter plein de George Noël, s'en est séparé?
Non, je ne sais pas non plus. Mais je sais qu'en tout cas, la chose qui est très importante, c'est que c'est une collection privée et il faut le revendiquer comme tel. C'est une collection privée qui fonctionne, je le disais tout à l'heure, de manière dynamique, qui avance, qui s'accroît, qui peut aussi bifurquer, qui peut aussi, et je crois que c'est une chose absolument importante. C'est une collection qui, et ça c'est une des choses qui m'intéresse beaucoup, c'est il faut revendiquer le fait qu'une collection privée, elle se constitue d'une manière différente d'une collection de musée et qu'elle elle a cette possibilité formidable que, eh bien d'un seul coup, quelque chose qui était la chose qui vous obsédait pendant très longtemps, finalement, n'est plus aussi importante parce que le problème s'est déplacé ou parce que le regard qu'on avait sur les choses s'est déplacé, qui fait aussi que parfois, on a dans une collection, quand il y a 10 pièces, 20 pièces, 30 pièces de certains artistes, arrive l'acquisition d'une nouvelle œuvre qui en rend quelques-unes moins essentielles ou moins importantes. Moi, j'aime beaucoup faire hurler les conservateurs de musées, notamment en France, en leur rappelant le mot d'un de leurs collègues conservateurs également, qui sortent dans certains cas aussi du même type d'école ou de formation, conservateur des bibliothèques, qui est cette très belle idée du désherbage. Dans la gestion au quotidien d'un fonds ou d'une collection de bibliothèques, une activité presque aussi importante que celle de l'acquisition, c'est celle qui s'appelle le désherbage. C'est de, pour pouvoir donner à ce fonds une dimension toujours vivante et toujours dynamique, il faut en permanence se poser la question de la nécessité ou pas de garder, disponible ou de garder. Alors évidemment, je sais bien que je prends un exemple un peu extrême puisqu'on n'est pas dans l'idée de l'unicité de l'objet, etc. Mais en tout cas, cette idée de garder en permanence, de remettre sans cesse en cause l'idée de la nécessité de conserver une œuvre dans la collection, je trouve que c'est quelque chose de très très dynamique et quelque chose de très intéressant. Donc Georges Noël, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas je trouve ça bien que ce genre de vraiment de démarche, oui, et de remise en question puisse exister.
Gérard, une dernière question.
Juste une question sur la collection que vous présentez, la collection Pinault. Est-ce que c'est une collection strictement exponentielle ou il y a des reventes pour acheter d'autres œuvres?
Il y a des reventes pour acheter d'autres œuvres. Il y a des reventes aussi parce que parfois il y a des, oui, je disais, il y a des, non, pas des changements de cap, mais il y a aussi des réorientations. Il y a, et il ne faut pas en faire un tabou.
Une question. Qu'est-ce que Martin pense de Xavier Veillant? Est-ce qu'il fait partie de la collection Pinault?
Il fait partie pas de manière importante. Je pense qu'il n'y a, d'ensemble important de Xavier Veillant dans la collection. Il y a des petites choses, mais il n'y a pas de grands ensembles de Xavier Veillant.
D'accord. Est-ce que ça veut dire qu'il est considéré comme pas un très grand artiste ou est-ce que c'est un manque ou c'est simplement une...
Non. Mais là encore, François Pinault fait sa collection à lui. Il y a des artistes qui l'intéressent pour de bonnes raisons, parfois je suis d'accord, pour de mauvaises raisons aussi. Il y a des artistes qui l'intéressent moins, pour de bonnes raisons, pour de mauvaises raisons. Aujourd'hui on voit comment la sensibilité de François Pinault pour parler des artistes de la génération française s'oriente très très fortement vers des gens plutôt comme Adèle Abdessemed, etc. Avec Xavier Veillant, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais ce n'est pas quelqu'un qui est voilà, qui ça se passe pas de, c'est pas son truc. Mais c'est pareil, il n'a pas de, il faut toujours redire qu'il n'a pas pour, il n'a pas pour mission de constituer un point de vue sur la scène artistique française et ses représentants. Alors, elle a été, on a souvent dit que il n'y avait pas de Français, que etc., etc. C'était en gros l'anti-France. Bon, on a dans l'expo là avec Caroline montré dans une seule expo aussi bien bon, les artistes français ou vivants en France. On a fait une salve qui allait de Philippe Perrault. Là encore, on est dans la peinture, mais on voit comment on est dans le, on est dans le, dans une chose qui est vraiment loin du lisse, moins loin du, qui est vraiment dans le, dans une forme d'expressionnisme, dans une forme de cri, dans une forme de choses comme ça, ou Tatiana, ou bien sûr Chen Zhen depuis toujours, Loris Gréau, ou des gens que moi je considère comme des artistes, en tout cas inscrits dans la chaîne, dans la scène française, comme comme Ping, comme Sturtevant d'une certaine manière, parce qu'à force, à force d'être à Paris depuis, bon, et donc il n'y a pas de, il y a pas d'anti-France, mais il n'y a pas de vocation à être le représentant de la scène artistique française.
Dernière question.
Oui, j'aimerais savoir si Monsieur Pinault s'intéresse à l'art contemporain chinois.
Alors oui, et sans trahir de secret, on a vu récemment dans un certain nombre d'expositions, enfin, pour prendre simplement les expositions de cette année à Palazzo Grassi, Pointe de la Douane, on montrait alors des Chinois de France d'une certaine manière, ou en tout cas installés en France depuis longtemps, comme Chen Zhen, qui hélas n'est plus de ce monde, mais comme Chen Zhen, comme Wang Yongping ou comme Yang Jiechang. Des Chinois de Chine comme Zheng Fangzi, Zhang Wan ou Sung Yuan et Pen Yu. Et puis il y en a encore d'autres comme Yan Peiming par exemple, qu'il n'a pas montré mais dont il a pas mal de choses. Donc c'est une dimension importante, oui, de ça. C'est quelque chose qu'il a, qui l'intéresse beaucoup. Alors, en fait, il est clair que le choix de François Pinault de s'installer à Venise correspondait pas simplement au fait qu'il y avait un beau palais 18e disponible dans un endroit très, très prestigieux. Ça tenait au fait que, à un certain nombre de choses, bon, le fait que, bien sûr, Venise avait cette dimension très, très, d'être européen. C'est un lieu sur lequel il y a plusieurs universités et plusieurs, donc aussi un véritable public local. Et puis, surtout, bah, que c'est un lieu dans lequel, au long du XXe siècle, le développement de la Biennale, l'installation de certaines institutions comme le Guggenheim ont donné un caractère particulier à la présence de l'art contemporain. Et l'idée d'installer sa collection à Venise, c'était quand même de faire en sorte que ce qu'on montre à Venise, quand on montre une exposition de la collection à Venise, on est sûr que, allez, pas 100%, mais que 99% du monde de l'art, c'est-à-dire des gens qui travaillent, des commissaires d'exposition, des artistes, des galeristes, des journalistes, des critiques, va le voir. Mais presque tout le monde vient une fois tous les deux ans à Venise. Donc c'est une plateforme absolument extraordinaire. Donc bien sûr, le fait que la Biennale existe a été un déclencheur, ou en tout cas très moteur, dans le choix de Venise. Et alors, à l'inverse, le fait que Pinault installe le Palazzo Grassi, puis la Pointe de la Douane, a, à l'inverse, et de la même manière, contribué à renforcer très fortement le poids, la masse critique de Venise. C'est-à-dire que le fait que Pinault, avec Pointe de la Douane, Palazzo Grassi, soit présent à Venise, a encore renforcé l'attractivité de la Biennale. Donc c'est une chose dans laquelle les différents acteurs s'épaulent les uns les autres. Et c'est aussi cette masse critique qui fait aujourd'hui de la Biennale une sorte de grand carnaval, dans lequel, quand même, au-delà de la dimension très intéressante de la Biennale, il y a aussi une sorte de folie absolue, de ridicule, hein, d'ailleurs, de vernissage et de glamour et de choses comme ça, dans lequel, comme au Festival de Cannes, les gens viennent plus pour la fête machin ou la fête truc que pour voir des expositions, mais enfin, ça fait partie du monde dans lequel on, ça fait partie du monde dans lequel on vit. Et alors donc, juste au-delà de cette, donc c'est ce qui a aussi amené d'autres comme Prada à s'installer à Venise, et puis des choses, on sait, alors moins connues, mais certaines fondations russes importantes, une fondation russe importante est en train de signer un accord avec un musée à Venise sur l'île de la Giudecca pour y faire une fois par an des expositions importantes. Donc, au-delà des choses très visibles, il y a une vraie tendance de fond. Et bien sûr, chaque année au moment de la Biennale, d'autres institutions. Ben, l'année dernière, Patricia Sandretto avait également organisé une exposition. Bon, il y a vraiment cet effet d'attraction liée à une. Je suis nul en physique, mais il y a une chose où quand une masse est importante, elle. Enfin, voilà. Y a une histoire d'attraction, je ne sais pas comment dire, de force, de gravité, d'attraction, je ne sais pas, peu importe. Centripète, voilà, de force centripète.
Pour compléter, alors quels sont vos rapports avec la Fondation Guggenheim ?
On se parle tous les jours. On se parle tous les jours parce que, moi j'inaugure le 28, mais toi quand est-ce que, etc. Je voudrais afficher sur le pont de l'Académie, quand est-ce que vous. Enfin, voilà, on est dans une sorte de collaboration, de complémentarité permanente. Ensuite, alors Guggenheim, ils sont sur un. Enfin, on a chacun en même temps sa spécificité. Guggenheim est quand même plus sur le moderne et nous résolument sur le contemporain. La Biennale est vraiment, même si ça dure 6 mois, un événement, tandis que nous, on travaille sur le permanent. Mais au-delà de ça, on se parle tout le temps. Et puis, je veux dire, on fait communauté d'une certaine manière, c'est-à-dire que hier on avait Pennone à la pointe de la douane, évidemment tous les gens qui s'occupent des différentes fondations étaient là, et vice versa quand la semaine d'avant Caroline Christophe de la Documenta venait présenter son programme au Guggenheim, et on était tous là. Donc il y a une sorte de réseau ou de petites communautés du monde de l'art à Venise. Et je dois dire une chose, c'est que Venise est l'une des rares villes en Italie qui présente ce genre de terrain ou de micro-communauté, hélas. Et la chose très belle, c'est que, notamment les mois qui précèdent la Biennale, il y a toujours des tas d'artistes qui viennent du monde entier, des artistes ou des galeristes qui viennent parce qu'ils préparent un projet pour un pavillon, pour etc., etc. Et c'est à ce moment-là où cette idée de petite communauté devient intéressante. Ça veut dire que quand ils viennent pour une semaine ou 10 jours ou un mois pour préparer un projet, c'est très important de trouver dans la ville dans laquelle on vient s'installer pour 3 mois avant les fastes de la Biennale, de trouver un certain nombre d'interlocuteurs ou de gens avec qui échanger. Et voilà, j'insiste sur ce fait que, hélas, c'est une chose assez rare en Italie.
Souhaitons la conclusion que Lyon prenne et Villeurbanne. Un exemple sur Venise, parce qu'on a un tissu aussi, mais peut-être faudrait-il qu'on se parle un peu plus. Je voudrais remercier. De temps en temps, je pense qu'on pourrait se parler encore un peu plus.
Je te laisse conclure, mais. Et vous connaissez de plus en plus. Je ne dirais pas que les acteurs de l'art contemporain ne dialoguent pas à Lyon ou dans le Grand Lyon. Bien au contraire. Et du reste, au moment de la Biennale, justement, c'est un facteur d'attractivité réel. Et je signale même que l'Institut travaille directement avec Thierry Raspail et l'École d'art sur des projets, et que tout ça se fait en lien, y compris avec Doc Artfair, etc. Donc notre petite histoire à nous, elle existe, elle est bien solide, elle est bien en activité. Je me permets de le rappeler. Bon,
donc Lyon est un futur Venise, il n'y a pas de problème. On a déjà les deux fleuves. Il suffit de faire quelques communications entre le Rhône et la Saône. Donc merci beaucoup Martin Bettenau, merci d'être venu aussi nombreux pour cette tout à fait intéressante discussion. Je vous rappelle que le jeudi 14 juin, on a à nouveau une séance d'initiation à l'art contemporain. Tous ceux qui sont venus à la précédente séance en sont repartis tout à fait intéressés et bien riches. Donc venez le 14 juin, je pense qu'on passera également une bonne soirée. Et merci Nathalie, merci à l'équipe de l'Institut, merci Martin Bettenau et merci à vous tous d'être venus.